Windisch, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la parité en politique. On est frappé aujourd'hui quand on s'intéresse au sujet de l'obsession qui existe autour de la parité homme-femme. Pourtant, d'autres groupes sont sous-représentés, voire absents du débat politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors écoutez, justement, c'est un problème qui n'est jamais posée, tellement l'obsession de la parité homme-femme, notamment en politique, voire récemment à quel point il fallait qu'il y ait le même nombre de ministres hommes-femmes en France, ce problème-là est tellement entré dans les esprits, dans la pensée politique, que personne ne questionne plus loin. Ça va de soi, il faut absolument celui qui réalise au maximum cette parité est considéré bien sûr comme progressiste, comme justement répondant aux avancées nécessaires de notre société. Alors, il n'est pas question de mettre en cause ce projet de parité politique homme-femme, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'interroge jamais en dehors de cette parité-là. Alors que, de mon point de vue, vous avez toute une série de groupes sociaux, d'hommes et de femmes, qui n'apparaissent jamais dans le débat politique comme préoccupation réellement importante. Vous avez par conséquent des groupes qui sont surreprésentés et d'autres totalement sous-représentés. Soyons concrets. Parmi, si vous voulez, il y a un autre problème dont on a parlé tout à coup maintenant, en remarquant que toute une série de chefs d'État européens, il y en a près d'une dizaine, n'avaient pas d'enfants. Eh bien, voyez-vous, quoi qu'on dise, de nouveau, sans être, même si on sera considéré comme conservateur, traditionnaliste, une personne qui n'a pas eu d'enfant, ne peut pas comprendre vraiment complètement toutes les préoccupations, les problèmes quotidiens des gens qui ont des enfants. Donc, ce que je pense qu'il faudrait, ce à quoi il faudrait arriver, c'est que les groupes les plus défavorisés et qui ont la vie vraiment très très dure au quotidien, prenons l'exemple des chômeurs, 5 ou 6 millions par exemple en France, des millions dans d'autres pays, je pense qu'il faudrait arriver au stade où on s'arrange pour que des personnes réellement considérées comme chômeurs, qui se vivent comme chômeurs, puissent présenter la situation, leur vie quotidienne familiale. C'est souvent dramatique, n'est-ce pas? Avec tout ce que ça implique pour les enfants, de savoir, de dire que leur père est chômeur, que parfois on est chômeur de génération en génération. C'est une situation extrêmement grave et vexante. Eh bien, dans l'agenda politique, cela apparaît très peu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une série de personnes qui vivent cette situation, qu'on aide matériellement, financièrement, de tout point de vue, pour qu'elles viennent régulièrement présenter ce qu'est leur drame dans les parlements. Ça paraît surprenant parce que on ne fera jamais croire que des énarques simplement sont capables de comprendre les problèmes de tous les gens les plus défavorisés uniquement parce qu'ils ont fait l'ENA et des grandes écoles. Alors, les chômeurs sont un exemple, mais il y a beaucoup d'autres cas, si vous voulez. Les agriculteurs, avec la mondialisation, un libre-échangisme total, on sait que ça devient catastrophique dans certains pays. On sait qu'il y a plusieurs centaines d'agriculteurs qui se suicident, mais un seul suicide d'agriculteur est un scandale. Et vous pensez bien que c'est un autre aspect de la gravité du problème, c'est qu'un certain nombre de personnes, de catégories sociales, deviennent de pures abstractions. On sait qu'il y a des suicides d'agriculteurs, mais voilà, ça devient un chiffre, ça devient une réalité abstraite. Eh bien, là aussi, il faudrait qu'il y ait une dizaine d'agriculteurs qui sont au bord du suicide dans des difficultés très graves, qui puissent être aidés financièrement, institutionnellement, de tout point de vue, pour venir présenter leur situation et prendre enfin des mesures où on arrive de nouveau à faire en sorte que chaque pays puisse quand même développer, par exemple, une agriculture. Il y a d'autres groupes, des femmes seules avec des enfants, eh bien, elles aussi, on devrait les entendre, les voir dans les médias, à la télévision, régulièrement, pas nécessairement tous les soirs. Vous voyez, ça paraît un peu saugrenu de dire cela. Je veux montrer que ces catégories-là ne sont pas représentées et on n'est pas étonné que là où existent des jurys populaires dans certains procès, on tire les gens au hasard. Imaginez qu'on ait un parlement où on tire au hasard, mais parmi toutes les catégories sociales, ça donnerait une image totalement différente. Donc, vous avez ces phénomènes d'un côté de surreprésentation et d'un autre côté de sous-représentation. Et ces phénomènes-là, évidemment, créent des tensions et des mouvements réactifs, du populisme, comme on dit, alors que il faudrait montrer ce qu'il y a concrètement comme problème qui engendre ce genre de mouvement. Vous avez aussi, disons-le, vous avez des groupes, d'autres groupes qui sont surreprésentés. Pas seulement les élites, qui en réalité, hommes ou femmes, font partie des mêmes groupes privilégiés, éduqués, et on sait que même des gens très bien formés peuvent amener un pays à la catastrophe. On a plusieurs exemples. Mais en plus, vous avez d'autres groupes qui sont très fortement surreprésentés, on ose à peine en parler. Eh bien, il est vrai qu'il y a une certaine homosexualisation de nos sociétés et que des homosexuels ont évidemment beaucoup plus de temps que les gens qui ont une famille et sont clairement, je pense, surreprésentés en politique. Vous voyez, dire cela, ce n'est pas un scandale, c'est simplement montrer que tout le monde a le droit d'être représenté, mais surtout que les problèmes des catégories les plus défavorisées soient représentés. Ces catégories nouvelles, par exemple, vous voyez, tout ce qui résulte des études de genre, on en parle tous les jours, on fait des émissions constamment à la radio, dans les radios, dans les télévisions, ces groupes minoritaires. Évidemment, qui sont par exemple opposés à la famille classique traditionnelle, ou même en politique, on peut le dire aussi, vous savez, l'exemple de la France est quand même surprenant pour bien des pays où la franc-maçonnerie est, semble-t-il, extrêmement présente dans un gouvernement. Vous avez parfois la moitié, les trois quarts des ministres qui sont francs-maçons. Eh bien voilà un exemple de surreprésentation. Et il est clair que cela n'est pas sans effet sur la résolution des problèmes des catégories les plus défavorisées. Donc, il me semble que ce problème, certains en riront, diront que c'est peut-être incroyable de parler de choses ainsi, mais je ne vois pas pourquoi on parle de la nécessité de lutter contre les inégalités, contre les privilèges, et de lutter seulement contre certaines inégalités, et souvent ce ne sont pas là où les inégalités sont le plus grandes, qu'on fait le plus d'efforts. Donc, c'est simplement un appel à réellement prendre en considération les inégalités, les situations défavorisées les plus graves, par le biais d'une représentativité politique, d'une forme tout à fait nouvelle et surprenante. N'est-ce pas? Peut-être que certains seraient gênés de voir, comme disait un certain président, des cent-dents au Parlement. Et pourtant, ce ne sont pas un ou deux cas, mais des millions de gens. Et je pense qu'une société qui, justement, se voudrait évoluer, progressiste, avancée, pourrait tenir compte de ces phénomènes. C'est même une obligation, dans la mesure où certains groupes d'individus ne viennent pas de pures abstractions. On connaît des réalités graves, mais on n'en tient pas compte parce que ça devient de plus en plus abstrait. Je pense qu'il est urgent de réagir là contre, même si de telles propositions paraissent, elles, alors effectivement, révolutionnaires, mais combien, me semble-t-il, indispensables, car ces couches les plus défavorisées ont joué un rôle essentiel dans la construction de nos pays tels qu'ils étaient avant que ces graves problèmes se manifestent avec une telle ampleur.
Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Vendy.